Bonjour chers frères et sœurs et chers amis, ceux qui nous visitent, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Est-ce que vous y croyez? Je dirais que c'est le combat spirituel. Et c'est ce que le Seigneur veut nous enseigner. Quand tout va bien, je veux dire, quand vous êtes en bonne santé, quand vous n'avez pas de problèmes financiers, vous dites tout va bien. Mais si vous êtes malade, si vous passez par l'épreuve, quelle que soit l'épreuve, est-ce que dans votre cœur, vous dites toujours tout va bien? Et ce n'est pas une formule, chers frères et sœurs, de dire, tu sais, avec mon Dieu. Retenez bien que c'est mon Dieu. Est-ce qu'il est ton Dieu? Tu ne peux pas dire avec Dieu, ça ira bien, s'il n'est pas ton Dieu. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1er et verset 1er. Jean chapitre 1er, verset 1er. Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Je vais rester sur le thème qu'on a abordé dimanche passé, sur cette question-là, pourquoi le salut est en Jésus seul? Nous avions abordé le premier point en affirmant simplement que si nous croyons que le salut est en Jésus seul, c'est parce que la Bible le dit. Amen. Et j'avais dit que en affirmant cette vérité, je place la Bible au centre. Si nous les croyants, les enfants de Dieu, j'allais dire les évangéliques et les pentecôtistes, on nous enlève la Bible, eh bien, on nous enlève la vie. C'est notre foi est basée sur ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit se trouve dans la parole de Dieu. Et personnellement, quand je lis la Bible, quand je médite la Bible, je crois que j'ai en face de moi Dieu. Et je fais attention sur chaque verset parce que c'est Dieu qui me parle. Si je lis un livre, un philosophe, un écrivain, je sais que c'est cet homme qui fait passer ses idées. Mais là, je suis en face de la parole de Dieu. Et nous avions dit, en s'appuyant sur deux versets, parce qu'il y en a plusieurs, sur cette parole qui dit dans Actes chapitre 4 et au verset 10, et surtout pas au verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, et son nom, c'est Jésus. Et le salut prévu d'éternité en éternité par notre Père céleste et l'expression de son amour, et nous sommes basés sur cet autre verset de Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu t'a aimé, Dieu nous a aimés. Le monde a été créé par Dieu. Le mal est entré dans le monde, le péché est entré dans le monde. Et parce que Dieu nous aimait, parce que Dieu aimait sa création, il ne pouvait pas assister à sa destruction sans rien faire. C'est pourquoi il a envoyé son Fils comme réponse à ce qui se passait dans ce monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Il y avait périr dans la demeure. Mais que tous ceux qui croient en Jésus-Christ soient sauvés, épargnés. Et ce matin, nous allons voir le deuxième point. Et le salut est en Jésus seul, parce que Jésus est Dieu. Amen. Parce que Jésus est Dieu. Nous venons de dire cette parole au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Et la parole était Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ce texte affirme clairement que Jésus est Dieu. Et pour mieux comprendre la divinité de Jésus, parce qu'il est question de la divinité de Jésus, eh bien, il faut examiner les noms que la Bible donne à Jésus. Je cite quelques-uns dans le Nouveau Testament. Jésus est appelé Fils de Dieu. Il est appelé Fils unique de Dieu. Il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le saint. Si nous allons étudier sur la sainteté de Dieu, c'est parce qu'il est saint. La Bible dit qu'il est le juste. Eh bien, si nous allons étudier sur la justice, et Dieu sait combien le monde a besoin de vivre dans la justice quand il y a des injustices, en Dieu, il n'y a pas d'injustice. C'est parce qu'il est juste. Il est le Seigneur de tous. Je disais, toute la création, homme ou femme, qu'il y ait des inégalités entre hommes ou femmes, qu'il y ait des problèmes entre les races, les ethnies, les tribus, les peuples, les blancs, les noirs, les jaunes, eh bien, la Bible affirme que Jésus est le Seigneur de tous. Amen. Nous sommes tous ses enfants et il nous aime tous. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Dieu Tout-Puissant. La Bible affirme qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il a tout créé, il a le pouvoir. Dans Matthieu chapitre 1er et verset 13, nous lisons ceci. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ce qui signifie « Dieu avec nous ». Dieu avec nous. Jésus est Dieu. Est-ce que Jésus est avec toi? C'est ça le thème. Et c'est ça, je pense, le plus important. Si je dois retenir quelque chose, c'est quand je me réveille, est-ce que je me réveille avec Jésus? Quand je vais travailler, est-ce que Jésus est avec moi? Quand je m'endors, est-ce que Jésus est avec moi? Lui, son désir, c'est d'habiter dans nos cœurs. La Bible affirme que nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il nous est dit, « Voici, et c'est Jésus qui parle, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Amen. Je souperai avec lui. » Dans ce texte-là, il y a deux vérités. La première vérité concerne les inconvertis ou les incroyants, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. » C'est par respect, il a le pouvoir d'entrer dans ton cœur, mais il n'est pas comme le diable qui force les portes. Il est bien élevé. « Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu entends ma voix, et c'est cette manière justement de témoigner de l'amour de Dieu, de prêcher la parole de Dieu, d'évangéliser et surtout de partager l'évangile par notre témoignage partout où le Seigneur nous a placés et de dire que Jésus est le sauveur du monde. Si justement quelqu'un dans ton foyer, dans ta famille, dans ton entourage entend le bon nom de Jésus, un bon témoignage de celui qui sauve, eh bien, crois. Alors, la Bible dit que Jésus va entrer dans son cœur et il va changer son cœur, transformer sa vie pour lui donner un avenir. Le deuxième aspect concerne l'église de Laodicée, parce qu'il est question de l'église de Laodicée. Et le Seigneur dit à l'église de Laodicée, le Seigneur dit à l'église de Nantes et Pontereau, l'église du monde entier. Qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien et que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Je te conseillerais d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et de vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et courir pour oindre tes yeux afin que tu vois. Quand l'Église désire marcher comme le monde, quand l'Église pense comme le monde, vit comme le monde, eh bien, c'est cet aspect de l'Église de Laodicée. Qu'est-ce qui fait notre richesse? Qu'est-ce qui fait notre gloire? Quel est le bien-être que nous mettons en avant? Est-ce que c'est Jésus qui habite dans nos cœurs, qui dirige notre vie? Ou alors, ce qui nous préoccupe tous les jours, c'est combien je vais gagner à la fin de l'année ou à la fin du mois? Comment je vais construire ma maison? Comment je vais me marier? Et ainsi de suite. Et si la préoccupation est basée sur les choses matérielles, alors bien notre foi est vaine, nous dit la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit que si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, alors c'est ça la base. Dieu qui nous aime, qui nous connaît, eh bien il nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Ce qui caractérise l'Église de Jésus, c'est l'obéissance à sa parole. Amen. C'est l'obéissance à sa parole, chers frères et sœurs. Ne prenez pas vos pensées, ne prenez pas la philosophie du monde comme le centre de votre vie. Mais ce qui doit préoccuper votre vie, c'est de se dire, est-ce que vraiment ma vie est le reflet de la parole de Dieu? C'est pourquoi Jésus frappe à la porte des cœurs, à la porte des églises, pour ramener son peuple sur le chemin de la vérité. Jésus se définit lui-même comme la lumière. Amen. Jésus se définit comme la lumière qui entre dans nos ténèbres. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que il a reçu du Père tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi nous, le Seigneur nous a envoyés en disant, je suis avec vous, je suis à vos côtés, je suis dans votre cœur, eh bien, je suis avec vous. Dans l'Épître aux Hébreux, Dieu le Père atteste que Jésus est Dieu. Et ça, c'est un témoignage fort parce qu'il sort de la bouche de Dieu le Père. Mais il dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a donné, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. » Hébreux chapitre 1, verset 8. « Ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile. » Jésus est Dieu. Jésus, en tant que Dieu, est omnipotent. Il détient toute la puissance sur la création. Amen. Il détient toute la puissance est si la création. Il dit un mot et le vent se calme. La tempête s'apaise. Marc chapitre 4, verset 35, vous lirez. Il guérit les maladies et les infirmités, nous dit la parole de Dieu. Son Jésus, son merveilleux Jésus que nous aimons, chers frères et sœurs. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades, chassant les démons. Et vous pensez que ce Dieu-là, il a changé? Non, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Devant le tombeau de Lazare, il dit, ah, aimons, Lazare, sors! Et le mort est sorti. Devant son père qui était attristé alors qu'il est venu à temps demander du secours, Jairus, il lui dira, ne crains point, n'écoute pas les gens qui viennent détruire ta foi. Tu es venu me voir et je t'ai dit que je t'accompagne. Eh bien, devant cet enfant, le Seigneur va dire un mot et cet enfant va revenir à la vie. Jésus est Dieu. Il est omniscient, il connaît toutes choses et il n'a pas besoin des services de renseignement. Aujourd'hui, quand il y a un problème dans le monde, eh bien, les services de renseignement sont à la recherche des informations. Il connaît ce qui se passe dans nos cœurs et dans nos pensées. Voilà ce que dit Jésus dans Jean chapitre 2, verset 24. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende des témoignages d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Je disais au premier culte que souvent nous prions mal. Nous prions mal. Parce qu'on perd beaucoup de temps à parler à Jésus comme si nous l'informons sur des choses qu'il ne connaît pas. Ah, tu vois, Seigneur Jésus, et tu vois, on parle beaucoup de choses. Le Seigneur connaît. Il connaît tout. Ce qu'il demande, c'est plutôt avoir la foi. Il connaît tout avant d'ouvrir la bouche. Il connaît ta situation. Il la connaît très bien. Mais simplement, ce qu'il te demande, c'est de venir avec la foi de parler à Dieu en confessant qu'il a le pouvoir non seulement de t'écouter, mais de te répondre. Et ça change tout. Ça change tout. Ça change de ce rapport que nous avons avec Jésus. Il nous connaît parfaitement. Plus que nous connaître, il nous aime. Amen. Est-ce que vous sentez poussé à aller vers les gens qui ne vous aiment pas, qui vous détestent ou qui vous cherchent, hein? On dit quoi, des poux dans les cheveux? Non. Mais quelqu'un qui vous aime. Votre papy, votre mamie, votre papa, votre maman, ou je ne sais pas, quelqu'un d'autre. Vous avez passé de bons moments ensemble parce que vous vous sentez bien, parce que vous vous sentez aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui peut nous aimer plus que Jésus? C'est pourquoi, chers frères et sœurs, ayez cette liberté d'avoir une relation intime, une communion intime avec votre Seigneur Jésus parce qu'il vous connaît parfaitement et il vous aime. Jésus est omniprésent, c'est-à-dire que la terre est son marchepied. Il est partout et en même temps, c'est pourquoi il peut secourir n'importe qui et n'importe où. Amen. Il peut secourir n'importe qui et n'importe où. Lisez Acte chapitre 27. Eh bien, vous verrez cet épisode de l'apôtre Paul, forcé d'aller à Rome. Et il va conseiller le capitaine du bateau. Mais il va prendre le capitaine du bateau, lui, il va chercher des informations auprès des experts. Et les experts vont dire des choses contraires à celles de la parole de Dieu, de ce que dit Paul. Et aujourd'hui, des fois, je me pose la question, si notre monde arrive à bien réfléchir, depuis tout le temps, il y a eu des problèmes, il y a toujours des problèmes, plus des problèmes. Il y a plus de savants, plus d'experts, experts en sciences, en économie, en politique, en environnement. Mais ça continue de se dégrader. Mais ils ont oublié de demander au plus grand des experts, à Dieu. Si au moins on demandait conseil à Dieu, amen. Si au moins on demandait conseil à Dieu, chers frères et sœurs, chère Église, ne soyons pas comme le monde. Ne soyons pas perdus comme le monde. Ne soyons pas comme des hommes et des femmes qui sont orphelins. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Ces gens-là n'ont pas écouté et leur bateau était emporté par la tempête. Ils étaient obligés de se laisser aller à la dérive. Emportés par le vent. Est-ce que les chrétiens doivent se laisser aller à la dérive? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi. Si tu n'as pas obéi, eh bien, écoutez une chose. C'est que celui qui t'aime te dit de faire demi-tour. On ne peut pas s'embarquer sans Dieu, sur une voie, sur un coup de tête, et espérer que les choses vont aller bien. Ayons l'habitude de demander conseil à Dieu avant de vous embarquer dans une histoire. Et l'apôtre Paul, pendant ce temps où le bateau était malmené par le vent, la tempête, il était dans la prière. Et il va recevoir un message. Ce message, c'est de dire à l'équipage, n'ayez pas peur, ne craignez pas, l'ange de Dieu à qui j'appartiens. Voilà. Nous appartenons à Dieu. Amen. L'ange à qui j'appartiens. Il m'a dit, amen, et Dieu nous dit ce matin, n'aie pas peur. N'aie pas peur de la tempête. N'aie pas peur de ce qui se passe. Si l'Esprit de Dieu atteste dans ton esprit que tu es enfant de Dieu et que tu es sur une direction que Dieu a approuvée, même si tu es dans une direction qu'on t'a forcée et que tu demeures dans la prière, eh bien, le Seigneur va changer le mal en bien. Amen. Il va dire à Paul, tu iras jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout. Parce que je suis avec vous. Je suis avec toi. Le Seigneur est avec ceux qui le craignent. Deuxièmement, le salut est en Jésus seul et j'aborde en énonçant et je terminerai par ce point. Parce que Jésus est mort et bien plus, il est ressuscité. Amen. Il est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est le sauveur du monde. Il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu Satan et ses démons. Il est ressuscité, il est le sauveur. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent, nous dit Luc, chapitre 1er, vous verrez. Si vous êtes haï, si vous connaissez des gens qui ne vous aiment pas, eh bien, ce sauveur est venu pour nous délivrer de nos ennemis. Je n'ai pas le temps, j'aurai le temps de développer qui sont nos ennemis. Un sauveur qui nous ouvre la porte pour le servir sans crainte. On est sauvé, chers frères et sœurs, n'est pas pour rester chez nous dans notre fauteuil, regarder la télé. Nous sommes sauvés pour servir. Et beaucoup de gens, souvent, sont comme la mère morte. Ils reçoivent et ne donnent pas. Un sauveur qui nous aide à marcher devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Je prendrai le temps d'aborder ce chapitre-là. Un sauveur qui nous aide à marcher dans la sainteté, dans un monde corrompu, dans un monde de souillure. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde et qui ne devraient pas se passer dans l'Église. On ne peut pas parler de fidélité dans l'Église. On ne peut pas parler de pornographie dans l'Église. On ne peut pas parler de toutes ces choses, des gens qui cohabitent, qui sont convertis et qui vivent à la colle. Toutes ces choses-là, tout en se disant chrétien, nous sommes sauvés pour vivre dans la sainteté. Il y a la parole de Dieu nous éclaire comment nous devons vivre. Et non seulement il nous éclaire, mais il nous donne la force parce qu'il a préparé de bonnes choses pour nous. Et vivre dans la justice. Qu'il y ait des injustices dans le monde. Il ne devrait pas y avoir des injustices dans l'Église. Il ne devrait pas y avoir des injustices dans nos foyers parce que nous sommes enfants de Dieu. Un sauveur qui éclaire ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour diriger leurs pas dans le chemin de la paix. Nous avons fait la paix avec Dieu. Nous avons fait la paix avec nous-mêmes et nous avons fait ou nous devons faire la paix avec les autres. Amen. Et nous ne pouvons pas le faire sans l'aide de ce Sauveur merveilleux. Amen. Alors que le Seigneur, dans sa grâce, vous accorde sa paix, un Sauveur qui nous aime. Il est venu. Il est mort, bien plus, il est ressuscité et il vit dans chacun d'entre nous. Que son nom soit béni. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ces moments que nous passons dans ta présence. Merci de bénir chacun d'entre nous, de bénir mes frères et mes sœurs. Merci parce que ta parole n'est pas là pour nous juger, nous condamner. Justement, tu es venu pour nous délivrer des jugements de ce monde, pour nous introduire sur le chemin de la paix, le chemin de la lumière, de la vérité. Je te prie de bénir mon frère, de bénir ma sœur, de bénir chacun d'entre nous, afin que nous puissions être environnés de cet amour de Dieu, que nous puissions te servir dans la paix, Seigneur, et dans la sainteté. Que ton nom soit béni, glorifié, exalté dans le nom de Jésus. Amen.